Bonjour à tous. Comme au milieu, il n'y a pas de personne du tout. Hein. C'est les deux côtés qui sont assez pleins. Ok. Je suis vraiment content d'être debout devant vous aujourd'hui parce que depuis le début du culte, c'est le livre des psaumes qui était mis à l'honneur. Et là, aujourd'hui encore, c'est le livre de psaumes que je vais vous prêcher aujourd'hui. Un livre d'encouragement de la part de l'auteur qui a vécu dans un temps d'épreuve. Et placer sa confiance en Dieu et dépendre de Dieu lorsque nous passons des moments difficiles n'est pas facile. Parfois, lorsqu'on encourage une personne, le dire c'est facile, mais lorsque nous sommes dans l'épreuve, ou qui subit l'épreuve, c'est vraiment difficile à vivre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout. Et on peut traverser des moments de crise et d'épreuves diverses. La vie transporte avec elle son lot de souffrances et la vie chrétienne est parfois entraîne une souffrance supplémentaire pour ceux qui suivent Christ. Le chemin par lequel Dieu nous conduit n'est pas toujours facile. Et dans des épreuves, Dieu nous donne les moyens d'en sortir grandi. Il nous apprend en même temps à nous connaître. À mieux nous connaître, non seulement par nos propres moyens, mais en lui, le Dieu Tout-Puissant et bienveillant. Et la question qui se pose, c'est que qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre à travers l'épreuve? Que veut-il nous apprendre? Et pour savoir ce que Dieu attend de nous, nous allons survoler un psaume qui nous aidera à trouver la force nécessaire d'avancer avec le Seigneur et qui exerce sur nous un effet bienfaisant et libérateur. Ce psaume que je vous invite à lire, c'est le psaume 62. Le psaume 62, moi je lis dans la version Nouvelle Bible Second. Et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Du chef de cœur, d'après Yedutun, psaume de David. C'est auprès de Dieu seul que je suis tranquille. C'est de lui que vient mon salut. Lui seul est mon rocher et mon salut. Ma citadelle, je ne vacillerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à le tuer comme un mur qui penche, comme une clôture qui se renverse? Oui, il projette de le renverser de son poste élevé. Ils se plaisent aux mensonges. De leur bouche, ils bénissent, mais au fond d'eux-mêmes, ils maudissent. Pause. Qu'auprès de Dieu seul, je sois tranquille, car de lui vient mon espoir. Lui seul est mon rocher et mon salut. Ma citadelle, je ne vacillerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon abri est en Dieu. Mets en lui ta confiance en tout ton peuple. Répondez votre cœur devant lui. Dieu est un abri pour nous. Pause. Les êtres humains ne sont qu'une vapeur. Les hommes, un mensonge. S'ils montaient sur une balance, ils seraient à eux tous plus légers qu'une vapeur. Ne mettez votre confiance dans l'oppression. Ne placez pas un espoir futile dans la spoliation. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la fidélité, car c'est toi qui paies de retour chacun selon ses œuvres. Nous allons diviser ce texte en trois parties. Dans la première partie, à partir du verset 2 à 5, on va donner comme titre « Témoigner sa foi en temps de crise ». Dans la deuxième partie, à partir du verset 6 à 9, « Rencontrer Dieu au cœur de la tempête ». Et la troisième partie, « Prendre un temps de réflexion avec Dieu » à partir du verset 10 jusqu'à la fin. Mais avant d'entamer ces trois parties, j'aimerais vous parler un peu du contexte. Cette prière de David, au départ, il l'a dédiée à son chef de cœur, Yedutun, qu'il a alors transformé en un chant. Ce psaume, au chapitre 62, se fait l'écho d'une prière intense, vécue dans une situation délicate et difficile pour le roi David. On peut penser que cette lutte dans la vie du roi s'est poursuivie pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et lorsque nous lisons ce psaume, nous pouvons repérer trois strophes, séparées chacune par une pause. Et lorsque j'ai lu le texte tout à l'heure, c'est vraiment fait exprès que j'ai lu le pause dans le psaume de David de tout à l'heure. Ces strophes peuvent correspondre à trois phases bien distinctes de la vie intérieure dans l'âme de David dans cette épreuve. On voit bien qu'il est dans le tourment, dans la tourmente. En plus, les personnes ou les hommes de confiance autour du roi l'ont trahi et se sont retournés contre lui. Il a été abandonné. Ces personnes-là disaient du bien en face de lui, mais lorsque le roi n'est pas là, il répondait des propos malveillants et de calomnie envers lui. Est-il jaloux de lui? Ou peut-être serait-ce la droiture du roi qui les gênait? On ne sait pas. En connaissance de cela, le roi fut très affecté par l'hypocrisie de ces hommes, qui se comportaient extérieurement en hommes de bien, mais qui sont remplis de haine et de mensonges lorsqu'il n'est pas là. Se sentant agressé, il défaillit et il décrit son état intérieur à l'intérieur de lui. Le roi semble être en plein lutte au moment où il écrit ses strophes. Il passe par des moments de doute et de tristesse. Lorsque la pression est trop forte, que la douleur se fait sentir, l'écriture devient pour lui une prière, un moyen de faire ressortir les souffrances qu'il a à l'intérieur de lui. Le roi David ne se cache pas. Il n'essaie pas de nier la réalité de l'épreuve dans laquelle il vit. Mais il sait que Dieu est fidèle. Il sait que le Dieu fidèle, il sera à côté de lui. Et il montre son parcours avec clarté. Il ne cache pas sa lutte ni sa faiblesse, mais il nous montre comment il a dépassé la situation dans laquelle il vit. Et c'est ici que nous entrons dans la première partie du texte. Témoigner sa foi en temps de crise. Dans cette situation, on voit une personne agitée, tourmentée même par la douleur. Amené à parler de lui, il se décrit comme un homme que l'on cherche à abattre. En utilisant un langage symbolique dans son psaume, il dit comme ceci: « Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Cherchez-vous tous à le tuer comme un mur qui penche, comme une clôture qui se renverse? Un homme a précipité de son poste élevé. » On voit cela sur le verset 4 et sur le verset 5. Et concernant les personnes qui s'en prennent à lui, il le fait dans un mode un peu impersonnel, dans le but de ne pas les nommer, ou il évite même de nommer ses adversaires, parce qu'il se sent vraiment blessé à l'intérieur de lui. Des hommes de confiance auxquels il a confié des tâches peut-être, mais ces personnes-là se sont montrées malveillantes envers lui. Et on perçoit une tristesse mêlée de colère lorsqu'il demande « Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme ?» Dans cette situation difficile dans laquelle David vit, il s'accroche à son expérience d'autrefois où il a expérimenté le secours avec son Dieu. Il se tourne en regardant en arrière, en regardant la vie qu'il a menée avant dans la foi de son Dieu. Il essaie de se souvenir comment le Dieu d'Israël, comment il l'a sauvé des mains de ses ennemis, que ce soit les Philistins ou que ce soit dans la main de Saül. Et lorsqu'il s'est souvenu, là, il prend un élan. Il confesse sa foi en ce Dieu capable de le délivrer dans des moments difficiles. Et voici comment il le dit. « C'est auprès du Dieu seul que je suis tranquille. C'est de lui que vient mon salut. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma citadelle, je ne vacillerai guère. » Complètement déstabilisé et complètement submergé par l'épreuve, on voit que David ne remet pas en question ce qu'il sait de Dieu. Dans la situation dans laquelle il vit, au lieu de s'apitoyer sur son sort, il tourne son regard vers ce Dieu qu'il a sauvé, qu'il a délivré tant de fois de la main de ses ennemis. Il sait que ce seul Dieu peut lui donner le repos nécessaire et qu'il peut obtenir, auquel il peut obtenir le salut. Ensuite, dans le psaume que nous avons lu tout à l'heure, il met un pause. Je dis donc pause. Ce qui nous fait entrer dans notre deuxième partie de notre message, rencontrer Dieu au cœur de la tempête, à partir du verset 6 à 9. Après une pause qui a pu durer un certain temps, David redit sa foi, dans les mêmes termes que la première strophe au verset 2 et verset 3. Dans ces versets 6 à 9, on voit vraiment la profondeur de ce que David dit. Et là encore, il a ajouté une parole de foi de la part de lui avec plus de conviction dans le temps de sa voix, dans la parole, dans l'écriture de ce qu'il a écrit dans son psaume. Au verset 8 et 9, il est dit comme ceci. « Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon abri est en Dieu. » Mets en lui ta confiance en tout temps, peuple. Répandez votre cœur devant lui. Abandonnant toute volonté de contrôle, il se jette littéralement dans le bras de l'Éternel. Ici, le cœur de David parle. Dans la première strophe, il ne faisait que se souvenir comment Dieu l'a délivré. Mais ici, depuis la profondeur de son être, David déclare encore sa foi et invite même les autres à imiter sa foi. Il sait maintenant que plus il dépend de Dieu, plus il se trouve en sécurité avec lui. Dieu devint son refuge. Se mettre sous les ailes du Tout-Puissant est la meilleure des solutions pour David. Dans la situation dans laquelle il vit, il voit en Dieu seul son rocher et son salut. Dans la langue hébraïque, le symbole du roc signifie un refuge. C'est pour souligner que le peuple peut toujours compter sur la protection de son Dieu. Si les adversaires d'Israël peuvent compter sur la protection de leur divinité, celle de l'Éternel est encore plus... Celle de l'Éternel n'est pas comparable aux autres divinités. On voit vraiment que l'expérience de David, la situation dans laquelle il vivait, il voyait vraiment la main de l'Éternel qui le protège. Et dans le psaume de David, mais cette fois-ci en Samuel 22, en 2 Samuel 22, il adresse une louange à ce Dieu particulier. Dans son expérience personnelle, il a vu comment ce Dieu lui a sauvé la vie. En 2 Samuel 22, à partir du verset 2 et 3, voici comment David appelle son Dieu. « Mon roc, mon Dieu libérateur, mon Dieu rocher en qui je trouve un abri, mon bouclier, la corne qui me sauve, ma citadelle, mon refuge. Toi, mon sauveur, tu me sauves de la violence et de mes ennemis. » Voilà comment il résume ce Dieu en qui il a donné sa vie tout entière. Et dans sa rencontre avec Dieu, au cœur de la tempête, voici ce que David a reçu. Il dit comme ceci, au verset 23 et 24 de ce 2 Samuel. Toutes ces règles sont devant moi. Et je ne m'écarte pas de ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui et je me suis gardé de toute faute. La voix de Dieu est parfaite. La parole du Seigneur est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se trouvent en lui un abri. Dans cette épreuve, chers frères et chères sœurs, David n'a pas amoindri la parole de Dieu. Au contraire, il les tenait fortement dans et auprès de son cœur. Dieu lui parlait à travers sa parole très clairement. Et dans l'épreuve dans notre vie, le meilleur moyen de le vivre, c'est de se ressourcer dans sa parole. Prendre la parole dans la foi et prier Dieu pour nous faire comprendre ce que dit sa parole dans les temps de l'épreuve. C'est l'encouragement de David pour nous dans son psaume. « Vous, les gens de mon peuple, dit-il, ayez confiance en lui, instant après instant. Ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. » Il fait une deuxième pause, et je dis pause. Ce qui nous fait entrer dans notre troisième partie de notre texte, prendre un temps de réflexion avec Dieu. Après cette deuxième pause, il s'est mis à réfléchir à l'expérience qu'il a vécue dans ce temps d'épreuve. Et vu le contexte dans lequel nous avons entendu tout à l'heure, il voit que les êtres humains ne sont qu'une vapeur. Il est léger, l'homme. Par là, le roi comprend que la pensée humaine n'est que fourberie. Il n'y a rien à espérer dans les fils de l'homme. Dans leur bouche, dit le psaume, il n'y a que le mensonge. Et lorsque, dans le langage symbolique qu'il décrit, placé sur la balance, veut dire que par rapport à la justice de Dieu, l'homme est sans poids. Aucune justice n'a été trouvée dans le cœur de l'homme. Il a un double langage. Devant le roi, les personnes, ses ennemis, ses amis qui sont devenus ses ennemis, tiennent un langage flatteur. Mais derrière le dos du roi, de la bouche de ces personnes sort une dague pour le poignarder de derrière. C'est la première leçon qu'il a tirée. suit une deuxième réflexion. Si souvent l'homme cherche à maîtriser son avenir, allant jusqu'à oppresser son prochain pour avoir le pouvoir ou de l'argent, c'est oublier qu'en effet, que Dieu a toujours le dernier mot. Si souvent, si le monde pense que la fortune va leur permettre d'être à l'abri, garantissant leur sécurité, ils nagent dans l'illusion. Plutôt que de faire confiance en Dieu, ils vont se heurter à un mur. D'où la sagesse du roi qui tire une conclusion plus claire. Quand leur richesse s'accroisse, n'attachez pas votre cœur. Le roi sait qu'ils sont appâtés par l'appât du gain s'ils veulent renverser le roi de son trône. Le livre du Proverbe dit au Proverbe, chapitre 4, au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et dans le psaume, dans le Proverbe, chapitre 3, au verset 1, le sage dit encore « Que ton cœur garde mes préceptes. » La troisième réflexion que David sort de son psaume, c'est avoir confiance en Dieu et dépendre de lui entièrement. Au verset 12, il est dit « Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu, c'est que la force appartienne à Dieu. » David puise sa force de là, car il sait que ce Dieu-là, et le Dieu qui a donné de la force face à ses ennemis et qui l'a libéré de la main de ses ennemis. Sans les conseils de Dieu, il n'a pas pu être sauvé, que ce soit de la main de ses adversaires ou que ce soit de la main de Saül. Il conclut, « Dieu est grand par sa force. Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai de rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Et maintenant, la question qui se pose maintenant, quel est l'écho néo-testamentaire de ce psaume 62? Comme David, le Seigneur Jésus a passé par des moments difficiles. Il s'est heurté au pouvoir politique et religieux de son temps pour montrer la vraie vérité concernant le Dieu de l'Ancien Testament. Comme David, il a témoigné de sa foi. Comme David, il a puisé sa force dans l'amour de son Père. Il est resté fidèle à Dieu. Il a été trahi par ses frères, et comme vous le savez, il a été trahi par Judas. Et ensuite, après, les 11 autres se sont enfuis après que Jésus fut arrêté. Il a été abandonné. Les chefs juifs étaient jaloux de lui. Il a été vendu pour 30 pièces d'argent. Il a enduré les rejets. Ils se sont rués vers lui, et finalement, ils l'ont tué. Mais le psaume ne reste pas là. Ce psaume 62 reflète que ce que Jésus endura aussi pour son peuple qui est esclave du péché. Dans son amour, il a sauvé son peuple, les Juifs d'abord, et ensuite les Grecs, ou les non-Juifs. Il est venu dans ce monde pour nous délivrer de la puissance de l'ennemi, de la puissance du monde et de la puissance du péché. Il a accepté de mourir sur la croix pour que son sang soit versé, pour que son sang ne purifie nos cœurs qui est plein de choses mauvaises. Mais on voit surtout que ce psaume montre la confiance parfaite qu'il avait en son Dieu dans l'épreuve. Et le prix de sa fidélité, le Père l'a ressuscité et souverainement élevé pour le faire asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Que peut-on conclure alors de ce passage, de ce psaume 62 ? Il y a dans l'épreuve, chers frères et chères sœurs, une chose dont Dieu veut nous faire comprendre. Dans l'épreuve, dans cette longue et douloureuse épreuve que vous passez, ou que moi je passe, ou que nous passons, Dieu veut nous donner une magnifique leçon. Ne soyez pas tristes si vous passez dans l'épreuve, mais c'est une chose pour notre vie, pour notre foi, pour avoir une endurance dans la vie que nous menons avec le Christ. Au début, cela semble difficile à vivre, mais à la fin, ce que Dieu extrait par cette épreuve, c'est que nous devenions un joyau, un vrai diamant, un tesselant. Et voyez la valeur du diamant en ce moment même. C'est le joyau le plus cher. Et plus cher encore aux yeux de Dieu, c'est nous. Un joyau resplendissant. Une personne à l'image de son Fils Jésus-Christ. Si nous passons par l'épreuve, c'est que Dieu veut que nous soyons comme son Fils Jésus-Christ. Dans le silence de l'épreuve, David a appris à écouter son Dieu et Dieu lui a parlé. Dans ce cheminement, David a conclu « La puissance est à Dieu ». Oui, la puissance est à Dieu. Il est tout puissant et en lui seul, et lui seul peut nous sauver dans les situations les plus difficiles et les plus délicates de notre vie. On ne court aucun risque à lui faire confiance. Plutôt que de s'attacher à nos propres ressources, à nos propres moyens. Si l'avenir semble incertain, si on fait face aux difficultés, pourquoi ne pas s'appuyer sur la parole de ce psaume 62, à l'expérience de David? Pourquoi ne pas prendre le temps de rencontrer Dieu dans le silence, dans la prière et bien évidemment dans la méditation de sa parole? Dieu est prêt à réhabiliter celui qui croit en lui, pour lui permettre de se tenir debout comme son Fils l'a fait devant la croix. Et je termine la parole, cette conclusion, par la parole de foi de David, pour nous encourager. Mets en lui ta confiance, en tout temps, en toutes circonstances, peuple de Dieu. Répondez, ouvrez votre cœur devant lui. Dieu est un abri sûr pour nous. Soyez fortifiés dans la parole de Dieu. Et je dis pause. Merci. Que la gloire revienne à Dieu seul.